Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile, bienvenue à tous, bonjour, merci d'être dans Europe Midi avec nous. Votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Tous les Autrichiens seront confinés à partir de lundi. Vaccin obligatoire en Autriche à partir de février. Il s'agit du premier pays européen à prendre des mesures aussi drastiques. On sera avec vous, Yasmine Akatou, dans un instant pour tous les détails. On n'en est pas là en France, mais la cinquième vague est là et on a appris ce matin qu'il y avait plus de 4000 classes fermées à cause du Covid. On va faire un point complet sur la situation. Un député propose une loi pour lutter contre les déserts médicaux. Ses propositions sont radicales. Il sera avec nous dans un instant. On sera aussi avec le président de la Confédération nationale des charcutiers à l'occasion de la messe annuelle du souvenir pour les charcutiers qui sera célébrée à Paris. Oui, vous avez bien entendu, ça mérite explication, hein, ça sera dans un instant. On va parler également du choc de rugby France-Nouvelle-Zélande de demain soir avec Jean-Baptiste Elissalde, l'ancien du 15 de France aux 35 sélections. Et puis le temps, la tendance météo avec Anissa Haddadi. La tendance avec une journée très lumineuse. Anissa, le soleil domine pour cette fin de semaine. Hein.
Oui, il va falloir en profiter, Romain, parce que vous le comprenez, hein, le temps va changer dès ce week-end et tout au long de la semaine prochaine. Alors en attendant, bien, nous avons du soleil cet après-midi sur les deux tiers de la France. C'est dans le nord de la Normandie, au Grand Est, hein, que le ciel va rester gris et couvert aujourd'hui.
Merci Anissa, météo complète dans un instant à la fin d'Europe Midi. Europe 1. Confinement de tous les Autrichiens dès lundi, vaccination obligatoire de tous les Autrichiens, Yasmine Akatou, ça a été annoncé ce matin. L'Autriche est le premier pays européen à serrer vraiment la vis.
Hein. Oui, l'Autriche est le tout premier pays d'Europe à imposer la vaccination pour tous, mis à part la Cité du Vatican. Aucun gouvernement européen n'a franchi le pas, même au plus fort de la crise sanitaire. Pour vous donner une idée, dans le monde, seuls le Tadjikistan et le Turkménistan ont pris une telle mesure. En Autriche, l'obligation vaccinale entrera en vigueur à partir du 1er février prochain. Le vaccin, ticket de sortie de la pandémie, a dit le chancelier autrichien ce matin. En parallèle, Alexander Schallenberg a annoncé un confinement général pour tous de 20 jours à partir de lundi. Depuis 5 jours déjà, les 2 millions de non-vaccinés n'avaient pas le droit de quitter leur domicile. Mesure prise face à l'explosion du nombre de cas de Covid. 15 000 nouveaux malades hier, un chiffre jamais atteint en Autriche. Dans ce pays de près de 9 millions d'habitants, seulement 66% de la population est vaccinée. Un chiffre qui devrait augmenter. Les dernières restrictions annoncées par le gouvernement ont entraîné une nette hausse du nombre d'inscriptions dans les centres de vaccination.
Merci beaucoup Yasmina. En France, donc, on n'en est pas là, mais certains clignotants passent du vert à l'orange. Afsane Saboui, bonjour. Bonjour Afsane.
Bonjour.
On a appris ce matin qu'il y avait plus de 4000 classes fermées à cause du Covid. Hein.
Oui, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué 11 000 élèves contaminés la semaine dernière et 4 048 classes fermées. Alors, ça représente 0,8% des classes en France, oui. Mais c'est surtout trois fois plus que la semaine juste avant les vacances de la Toussaint. Donc, c'est un signe de plus que la circulation du virus a repris intensément sur tout le territoire et dans toutes les tranches d'âge. On le voit aussi dans le taux d'incidence nationale qui est à 125 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 38% par rapport à la semaine dernière. Sur la même période, le nombre de nouvelles hospitalisations est en hausse de 15% et celui des admissions en soins critiques de 11%. Ce matin, Santé publique France a alerté particulièrement sur l'aggravation de la situation dans les Pays de la Loire, en PACA et particulièrement à La Réunion. Donc les autorités sanitaires sonnent la remobilisation générale sur les gestes barrières, le port du masque, l'aération et la vaccination. Parce que bon, on est bien d'accord, il y a un peu de relâchement. Et on le voit dans l'enquête Covid-Prev qui suit l'évolution de nos comportements depuis le début de l'épidémie. À peine un Français sur deux évite les embrassades et préfère les saluts à distance. Et 41% aèrent plusieurs fois par jour. Donc en résumé, on sait ce qu'il faut faire. Il faut juste s'y remettre et maintenant.
Alors, Afsane, il y a les derniers chiffres de l'épidémie. Hein. On les connaît depuis quelques heures, quelques minutes même.
C'est ce taux d'incidence nationale, 125 cas pour 100 000 habitants, et on est vraiment en hausse de 40% par rapport à la semaine dernière.
Merci beaucoup Afsane Saboui. Voilà les derniers chiffres. 4000 classes fermées à cause de la Covid. Ça veut dire que ça monte en puissance. Il est 12h34.
Europe Midi. Midi 30, 13h. Romain Desarbres.
Les déserts médicaux, on en parle souvent. Il y a un député qui, on va le dire, met les pieds dans le plat et qui veut obliger les jeunes médecins à passer au moins 3 ans dans un désert médical après leur remise de diplôme. Ce député, c'est Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine. Bonjour monsieur le député.
Bonjour monsieur.
Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. On a besoin de quelques explications. C'est un peu dur d'obliger les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Comment vous est venue cette idée? Expliquez-nous.
C'est assez simple. Depuis 15 ans, à l'Assemblée nationale, on évoque les mesures dites incitatives, prime à l'installation, défiscalisation, projet professionnel de santé, maison pluridisciplinaire de santé, contrats locaux de santé, télémédecine. Et il s'avère que ces mesures dites incitatives, que moi je soutiens depuis une quinzaine d'années, ne suffisent plus. La situation s'aggrave de jour en jour à travers le territoire national, que ce soit d'ailleurs dans les grandes villes, les villes moyennes ou les territoires ruraux. Ce n'est pas une spécificité des territoires ruraux, parce que lorsqu'on parle désert médical, on pourrait penser territoire rural. Non, non, tout type de territoire est concerné.
Oui, ça c'est très important à dire. Il y a 6 à 8 millions de Français, 6 à 8 millions de Français qui sont touchés par les déserts médicaux.
Un rapport sénatorial révèle donc cette information, 6 à 8 millions de Français qui n'ont pas de médecin référent. Il y a donc urgence à agir et à proposer des mesures de régulation aux côtés des mesures dites incitatives, afin de mieux répartir les médecins, parce que naturellement, la priorité numéro un, c'est de former plus de jeunes médecins. Ça y est, c'est décidé, puisque Olivier Véran a supprimé le numerus clausus. Ensuite, au cours des 10 années de formation de médecin, il faut lever la pression. Il y a une pression telle sur les étudiants en médecine, sur les internes, qu'il faut agir aussi pour lever cette pression. Et enfin, il faut mieux répartir sur l'ensemble du territoire national l'installation des médecins. Et si on engageait, on conventionnait, c'est ce qu'on appelle la convention sélective, qui est dans le débat depuis une dizaine d'années, si on conventionnait les nouveaux médecins 3 ans, alors 3 ans, c'est ce qui est dans la proposition de loi. C'est soumis au débat, c'est une proposition de loi. C'est donc soumis au débat. Si on les conventionnait 3 ans pour aller exercer dans les territoires sous-dotés, ça apporterait de la régulation. Je prends un exemple. Dans le département d'Ille-et-Vilaine, vous avez la préfecture qui est Rennes, qui est une ville dynamique et qui rayonne globalement sur l'ensemble du territoire. Et donc, il n'y a pas de territoire, je dirais, en déshérence. Il y a des déserts médicaux, mais l'offre socio-éducative sur l'ensemble de ce département est d'excellente qualité, parce que les maires des communes rurales, des villes moyennes ou de la métropole ont fait les efforts nécessaires pour une offre sociale, une offre culturelle, donc, une offre égutative
vous
et éducative
de
qualité.
Les 3 ans dans un désert médical pour un jeune médecin, pour qu'il apprenne son métier aussi, c'est aussi ça. Vous proposez également dans les régions où il y a beaucoup de médecins que les nouveaux médecins ne puissent s'installer que quand il y en a un qui part. Comme ça, on n'augmente pas le nombre de médecins dans les régions surdotées. C'est également une de vos propositions.
Tout à fait.
Merci beaucoup Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. La colère des pêcheurs, elle ne retombe pas. On se dirige vers un échec des négociations avec Londres au sujet de la pêche. Le gouvernement prépare des indemnisations. Charles Guyard, vous avez rencontré des pêcheurs à Saint-Malo, qui sont au 36e dessous, on peut le dire.
Oui, effectivement, c'est la douche froide dans la baie de Saint-Malo. Imaginez, vous sortez du port et en une petite heure de navigation seulement, vous êtes déjà dans les eaux britanniques. Alors autant dire que sans licence pour prélever autour des îles anglo-normandes, c'est la mort du métier. Face au mépris de Londres qui piétine les accords du Brexit, et plutôt que de batailler, Paris préfère donc sortir le chéquier et inciter Bretons et Normands à rester à quai, voire à changer de travail. Inconcevable pour Maxime Prével, il est capitaine d'un bateau de 16 mètres qui pêche l'araignée autour de Jersey et Guernesey.
C'est dramatique parce qu'un bateau comme ça, avec 8 membres d'équipage, si on ne mène pas un minimum de tonnage, c'est pas un métier qui est rentable. Il faut trouver un moyen de vendre ce bateau-là, racheter un plus petit et travailler dans les zones françaises. Et c'est pas riche les zones françaises en araignées. Donc ça va être compliqué, je pense. C'est mon métier, j'aime mon métier et non, je préfère aller en mer et aller gagner le fruit de mon travail. On a l'impression que la France baisse les bras.
Et en tout cas, les pêcheurs, eux, ne les baissent pas les bras et comptent bien mener des actions pour se faire entendre. On se souvient qu'en mai dernier, ils étaient partis à plusieurs dizaines autour de l'île de Jersey, ce qui avait obligé Londres à déployer, chose exceptionnelle, deux bâtiments de la Royal Navy.
Merci beaucoup Charles Guyard. On se dirige donc vers un échec des négociations avec Londres, alors qu'on montrait les muscles il y a encore quelques jours en menaçant d'interdire d'accès aux ports français les bateaux britanniques. Écoutez ce qu'en disait ce matin la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, interrogée par Alexandre Chauveau.
Je trouve ça scandaleux, c'est sincèrement scandaleux. Et je pense que nous allons devoir avoir ce bras de fer. Il faut menacer, je suis désolée, mais avec eux, il faut menacer. Il faut aller jusqu'au bout. Nous sommes beaucoup trop tendres. Donc il faut vraiment aller très loin dans nos relations qui doivent, à mon sens, se détériorer. Parce que nous ne pouvons pas continuer à être soumis à ce gouvernement.
Voilà, Natacha Bouchard. 12h40, restez bien avec nous dans Europe Midi dans un instant. On suivra le président de la République dans les Hauts-de-France, Éric Zemmour à Londres, et puis on parlera de la messe du souvenir des charcutiers. Elle se tient dimanche prochain. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h43, 4 jours dans les Hauts-de-France pour le président de la République Emmanuel Macron qui va visiter cet après-midi une maison de santé de proximité. Jacques Serret, bonjour Jacques.
Bonjour.
C'est vous qui suivez ce déplacement pour Europe 1. Ça ressemble fort à un déplacement de président en campagne.
Oui, car la région Hauts-de-France est particulièrement une terre de campagne à l'aube de cette présidentielle. Emmanuel Macron le sait et ce n'est pas un hasard s'il débarque pour 4 jours ici. Tout à l'heure, il croisera l'un de ses potentiels adversaires, le président de la région, Xavier Bertrand. Leur poignée de main sera évidemment très scrutée, d'autant plus que dans une récente interview à Valeurs Actuelles, le candidat à la primaire LR tape fort contre le locataire de l'Élysée. Il est passé du président du « en même temps » au candidat du « tout et son contraire » à scène Xavier Bertrand, qui estime que face à lui, le président sait qu'il sera battu. Pas sûr qu'Emmanuel Macron lui réponde sur ce terrain-là. En tout cas, il compte bien montrer par cette tournée de 4 jours que lui aussi a un ancrage local hors de Paris et qu'ici, ce sont bien ses terres d'origine, son fief. Alors après Aulnoy-Aymeri puis Guise, cet après-midi, le chef de l'État devrait se rendre dans sa maison familiale du Touquet pour y passer le week-end avant d'aller lundi à Amiens. Amiens, sa ville natale, où il avait lancé en 2016 son mouvement En Marche. Tout un symbole à 5 mois désormais de l'élection présidentielle.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. J'arrive. C'est ce qu'a écrit Éric Zemmour ce matin sur son compte Twitter avec une photo de lui dans le train qui l'emmène à Londres. Message adressé à qui ? Message adressé à Sadiq Khan, le maire de Londres, qui voit d'un mauvais œil la venue du polémiste. À Londres, Victor Chabert. Bonjour Victor. C'est vous qui suivez ce déplacement d'Éric Zemmour. Victor, qu'est-ce qu'Éric Zemmour va chercher à Londres ?
Éric Zemmour est arrivé il y a une petite heure environ. Il passe une semaine difficile, Éric Zemmour. Plusieurs ratés, la séquence de son hommage devant le Bataclan qui fait polémique, la salle où il devait tenir sa conférence ici à Londres qui annule sa venue à la dernière minute. Et cela se ressent dans les sondages. Il baisse. Le polémiste s'est exprimé à la descente du train.
Les semaines se suivent, ne se ressemblent pas forcément. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez qu'on allait être à 70% dans les sondages ? À monter à 1% par jour. Là, je gagne, d'autres, je perds. Bon, je pense que... Enfin, je sais pas, mais je pense qu'à 1 ou 2%, c'est la marge d'erreur, quoi. Dans les deux cas, dans les deux sens. On n'est pas vraiment quelque chose de décisif. Je pense que pour l'instant, il faut regarder. J'ai l'impression que personne n'est plus en dynamique, à part moi.
Éric Zemmour a un agenda chargé, des rendez-vous privés pour lever des fonds, ensuite une interview à la chaîne économique Bloomberg TV, dans la foulée une conférence devant les Français établis à Londres, dans une autre salle que celle initialement prévue. C'est la plus grosse communauté d'expatriés au profil plutôt aisé qui donne beaucoup aux candidats à l'élection présidentielle. L'enjeu est gros pour Éric Zemmour ce week-end, il doit se relancer alors que Marine Le Pen reprend des points et que les Républicains monopolisent l'agenda avec leur congrès.
Victor Chabert en direct de Londres. Merci beaucoup Victor. 12h47.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Vous êtes peut-être à table. Pourquoi je vous dis ça ? Bien parce que vous le saviez peut-être, mais chaque année, une messe du souvenir des charcutiers se tient à Paris à l'église Saint-Eustache. C'est la 212e qui aura lieu dimanche prochain et je voulais qu'on en parle dans Europe Midi parce que c'est vraiment un événement. Joël Mevinier, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour.
Bonjour, vous êtes charcutier traiteur, MOF comme on dit, meilleur ouvrier de France et président de la Confédération Nationale des Charcutiers. Merci beaucoup d'être avec nous, ça nous fait vraiment très plaisir. Expliquez-nous, comment se déroule cette messe? Je disais que on savait qu'il y avait cette messe. En réalité, c'est assez confidentiel, hein?
Ben, c'est assez confidentiel. Les fidèles de Saint-Eustache, y compris des élus, tout ça, viennent systématiquement tous les mois fin de novembre pour faire une communion parce que c'est une messe, c'est vraiment atypique quoi. Ouais. Ça dure 1h30, l'église est pleine à craquer et c'est vraiment quelque chose de solennel, de communion entre nous quoi, voilà.
C'est les charcutiers qui viennent demander la protection de Dieu, hein. Qui est convié?
Les charcutiers, les retraités charcutiers, les élèves de notre école nationale de plus de 50 ans, donc il y a tout un tas de jeunes qui sont là, les meilleurs ouvriers de France, il y a aussi la confrérie de Saint-Antoine, la confrérie du cochon, donc voilà, et puis les fidèles des charcutiers.
Et les fidèles des charcutiers, les bons clients. Bon. Et alors, vous faites, comment ça se passe? Quelle est la particularité de cette messe? Vous faites une offrande?
Alors, bien sûr, on fait une offrande. On amène des plats de charcuterie. Et malheureusement, cette année, à cause de toujours cette période de la Covid, mais théoriquement, les autres années, nous mettions un buffet à disposition pour tous les fidèles de la paroisse. Et donc, cette année, nous avons décidé, en accord avec le curé de Saint-Eustache, donc nous offrirons, pour le 24 au soir, nous offrirons des sacs avec de la charcuterie et de la pâtisserie pour les plus démunis. Voilà comment nous rendrons aussi un clin d'œil à ces gens-là dans la nécessité.
D'accord.
Mais théoriquement dans l'église, on mettait un buffet à disposition et croyez-moi que tout le monde, quelle que soit la classe sociale, se ruait sur ces buffets.
Ah bah j'imagine, ça j'ai aucune difficulté à l'imaginer.
Voilà.
Mais quelle tristesse, c'est la période qui est comme ça, il n'y a pas de buffet cette année, évidemment. Reviendra, on l'espère. Hein.
Bien sûr, on l'espère.
Bah écoutez, merci beaucoup Joël Mevinier d'avoir été en direct avec nous. Très bonne messe dimanche bonne journée. Voilà, merci beaucoup
et à
bientôt, évidemment. Et bonjour à tous les charcutiers et les charcutières de France, bien sûr. 12h50, événement rugby, choc demain soir, France-Nouvelle-Zélande, France All Blacks au Stade de France. On sera avec un ancien de l'équipe de France, Jean-Baptiste Elissalde. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h52, c'est toujours un événement. Samedi soir, match de clôture de la tournée d'automne pour l'équipe de France de rugby. Ils vont affronter les Néo-Zélandais, les All Blacks. Bonjour Jean-Pierre Elissalde.
Jean-Pierre, oui, j'ai eu peur de m'appeler Jean-Baptiste.
Non, c'est une
erreur.
Jean-Pierre Elissalde, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un ancien de l'équipe de France, de l'aviron bayonnais aussi, du Stade Rochelet, puis vous avez eu 5 sélections en équipe de France, Jean-Pierre Elissalde.
Oui. Et quatre défaites et une victoire. C'est le jour où j'ai gagné qu'on m'a sorti, c'est bizarre.
Bon. comment on les affronte, les All Blacks? Comment, vous qui êtes un sacré observateur du rugby, comment est-ce qu'on les affronte et comment est-ce qu'on les bat surtout?
Alors là, pour les battre, il faudra demander à mon fils, en l'occurrence, à Jean-Baptiste, parce qu'il a gagné, pas moi. J'ai eu la chance de les rencontrer dans les sélections régionales ou avec les barbariens français. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, la question est... Il y a un mélange d'admiration. Sincèrement, parce que c'est 120 ans d'histoire, en l'occurrence, quasiment. Hein. Donc, c'est depuis tout le temps qu'une petite île, très peu d'habitants, arrive à damer le pion à tous les grands pays, les grandes forces, depuis 120 ans. Donc, c'est de l'admiration, sincèrement, c'est de l'admiration. Et quand on rencontre les Blacks, on ne rencontre pas qu'une équipe de rugby, on rencontre une histoire, une religion quasiment, une identité. Bref, c'est très riche. Et pourtant, il faudrait les regarder comme une équipe de rugby, avec des qualités et des défauts, beaucoup plus de qualités que de défauts. Et on devrait rester dans le côté, j'allais dire, 15 joueurs qui rencontrent 15 bonhommes, quoi. Voilà, des noirs qui rencontrent des bleus ou des blancs.
Sauf qu'il y a cette part psychologique qui vient en plus, c'est ça, hein?
Ben oui, oui, mais bon, moi, j'étais pas un grand champion, mais j'étais toujours un amoureux de mon sport, donc c'est vrai que quelque part, c'était plus une récompense qu'un devoir de gagner. Hein. C'est, en plus, rappelez-vous, le rugby n'avait pas de compétition à l'époque. Le tournoi était une compétition inventée par les journalistes. Donc, c'était des rencontres amicales, entre guillemets, hein, dans le sens fraternel du terme. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans le monde professionnel, et même depuis la Coupe du Monde, on est là pour gagner, les joueurs sont là pour gagner. Et donc, il doit y avoir une approche beaucoup plus, je n'allais pas dire scientifique, mais théorique, technique, technico-tactique, que affective. Il faut laisser un peu ce côté où vous êtes en admiration, subjugué, et même l'oraca, franchement, quand vous êtes spectateur, on dit que spectateur, que vous voyez l'oraca.
Ça impressionne, c'est hein, ça impressionne. Oui, ça impressionne.
Mais c'est de la chorégraphie, surtout. Mm. C'est cette évolution qu'il y a eu, regardez un cas, en fait, aller sur YouTube, regardez, il y a 50 ans, c'était,
bah oui,
c'était marrant, quoi, c'était labouré, si j'ose dire, quoi. Et maintenant, c'est devenu une mise en scène. C'est vraiment une préparation, bien sûr, pour eux, ça, c'est dans le même sens. Mais
c'est formidable. C'est vraiment
c'est formidable, ouais, c'est riche, quoi. Donc, je me mets toujours maintenant dans la vie d'un spectateur. Je ne peux être que ça, un téléspectateur, voire un spectateur. Et j'admire, quoi. Je regarde, je profite, c'est sacré.
Hein. Et on va tous en profiter demain soir. Merci beaucoup, Jean-Pierre Elissalde. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi. C'est vrai que c'est formidable. Et quel spectacle. Ça sera demain soir au Stade de France. Le temps avec vous Anissa Dadi, du beau soleil pour une grande partie du pays. Hein.
Oui, du Sud-Bretagne jusqu'à la Côte d'Azur, de la Corse jusqu'aux Pyrénées, de la Provence jusqu'aux portes du Jura. C'est du grand et beau soleil pour tout le monde cet après-midi. Un soleil radieux pour le sud de la France et puis de belles éclaircies pour le centre-Val de Loire. Ailleurs, ça se complique. Et en particulier au nord de la Loire, hein, sur la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace. Dans toutes ces régions, malheureusement, la journée est un petit peu plus sombre avec un ciel qui va rester couvert et gris tout l'après-midi. Alors les températures, elles sont plus fraîches dans le nord-est. Hein. On a 5 degrés à Lons-le-Saunier, 8 degrés à Belfort, 9 à Dijon et Lyon, 11 degrés pour Clermont-Ferrand et Nancy. Ailleurs, c'est assez doux. 13 à Paris, Brest et Bordeaux, 15 pour Mimizan et Bayonne, 17 degrés à Nîmes, 19 à Marseille et Mandelieu-la-Napoule. Le temps va changer. Demain, nous aurons encore un peu de soleil dans le sud. Dès dimanche, c'est le retour de la pluie et les températures qui baissent la semaine prochaine.
Température en baisse la semaine prochaine. Merci Anissa. 12h57, restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est La France bouge avec Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. Très bon après-midi sur Europe 1.